Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Pour votre premier grand jury, eh bien à mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine de TF1.
Bonjour.
LCI.
Bonjour.
Dans notre rubrique, la question en plus, c'est Vincent Guyot, agriculteur, qui vous interpellera, Yannick Jadot, à propos du glyphosate. Et puis nous retrouverons bien sûr en fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad pour questions nettes, vos commentaires, vos réactions, vos questions à Yannick Jadot. Vous pouvez toujours réagir bien sûr en direct sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, et puis vous y répondrez bien sûr, Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, depuis votre entrée en campagne, vous le clamez haut et fort, vous voulez vous placer au-dessus des partis, ni de droite, ni de gauche. C'est à se demander s'il n'y a pas chez vous un peu d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, comme lui, en son temps, vous avez décidé de faire cavalier seul aux élections européennes, de ne plus être le supplétif de quiconque, et notamment du Parti socialiste. Fini la gauche plurielle, place aux Verts au singulier. Et après tout, bien pourquoi pas, vous avez porté le combat écologique avant tout le monde, au sein de Greenpeace, puis en politique, au Parlement européen, dont vous êtes, je le rappelle, député sortant. Mais aujourd'hui, en la jouant en solo, eh bien vous attirez les critiques de la gauche, et en particulier de celui qui défend les couleurs du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, votre ami, en tous les cas, comme il se définissait lui-même il y a 2 semaines à peine, à votre place ici au grand jury. Et cette semaine, eh bien, Raphaël Glucksmann vous a de nouveau tendu la main, sans ambiguïté, et je vous propose de le réécouter.
Je pense sincèrement que l'heure est extrêmement grave parce qu'il y a le réchauffement climatique, il y a le tic-tac et elle est extrêmement grave parce que partout les nationalismes montent, parce que nos démocraties sont en danger, parce que les libertés reculent, parce qu'il y a une crise sociale immense. Et moi j'ai eu du mal à rentrer dans ce débat parce qu'en fait je regardais et je me disais mais si la situation est si grave, pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble? On n'arrivera pas à convaincre les gens de se lever si on ne s'unit pas. Notre comportement n'est pas du tout à la hauteur des périls et en fait on s'en mordra les doigts, l'histoire nous jugera.
Yannick Jadot, c'était jeudi soir pour le premier débat des têtes de liste aux élections européennes.
J'y étais aussi,
vous n'avez pas l'occasion, bien sûr, vous n'avez pas eu l'occasion de lui répondre, c'était sa conclusion. Eh bien, c'est le moment. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous acceptez l'alliance ou définitivement, il n'y en aura pas?
Quelle est la démarche des écologistes pendant cette élection? C'est de vouloir absolument sauver l'Europe, la changer, pour sauver le climat. C'est de renouveler la confiance des citoyens dans la politique, dans leurs élus, sur la base de la cohérence et sur la base de la clarté. Et ça fait des mois qu'on nous propose aux écologistes une union de façade à Paris qui n'aurait pas de cohérence au Parlement européen. Vous avez entendu comme moi Raphaël Glucksmann dire qu'il siégerait au sein du groupe socialiste au Parlement européen. Quel est le candidat des socialistes européens pour diriger la Commission européenne, leur chef de file dans cette élection européenne? C'est Frans Timmermans, c'est l'actuel vice-président de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il a défendu pendant 5 ans, Frans Timmermans? Il s'est battu pour le glyphosate, pour le glyphosate. Il se bat pour tous les accords de libre-échange. Il défend le dumping fiscal, notamment de son pays, les Pays-Bas. Moi, simplement, ce que je veux faire, en rassemblant tous les écologistes, en ayant sur ma liste des acteurs de la vie sociale, de l'insertion professionnelle, de la solidarité, des patrons d'entreprise,
ce que je veux faire... Il vous propose de mener cette liste, vous auriez pu imposer vos orientations.
Mais la question, c'est pas le discours qu'on tient à Paris. Ça, tout le monde est aujourd'hui écologiste. Depuis le Front National jusqu'aux Insoumis, tout le monde est écologiste. Le seul problème que nous avons, nous, écologistes, c'est que quand il s'agit de voter au Parlement européen sur la sortie du glyphosate, contre des accords de libre-échange qui remettent en cause nos normes sanitaires, qui tuent notre élevage, qui abîment notre environnement, quand il s'agit de combattre l'austérité pour porter l'investissement, eh bien les socialistes,
que va rejoindre Raphaël Glucksmann. Les libéraux que va
que
rejoindre
Glucksmann
Madame
avait dit
Loiseau.
Qu'il y aurait une liberté d'adhésion au groupe.
Ah non, mais il a dit qu'il rejoignait le PSE, le Parti Socialiste Européen, dans ce grand débat. Les libéraux que va rejoindre Madame Loiseau ou les Républicains, ils votent ensemble. Ils votent ensemble pour cette Europe qui est devenue souvent détestable parce qu'elle est libérale. Technocratique aussi.
Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que votre ami Raphaël Glucksmann, finalement, est un ami gênant aujourd'hui ?
Non.
Et est-ce que comme Emmanuel Macron s'entend, vous pourriez dire la vérité m'oblige à vous dire que mon programme n'est pas socialiste ?
Ah, mais moi, la vérité m'oblige
comme
à vous
Lionel
dire
Jospin.
Que mon programme est
Lionel
écologiste.
Lionel Jospin, pardon.
Mon programme est écologiste. Et une nouvelle fois, on a effectivement une accélération dramatique de la crise environnementale, emballement climatique, anéantissement de la biodiversité. Pour cela, on sait qu'on doit changer de modèle énergétique, de mode de transport, on sait qu'on doit organiser différemment l'économie, organiser différemment nos territoires. Si on n'a pas la cohérence entre le discours et les actes, on est en train de tuer la politique.
Vous dites qu'il n'y a pas de cohérence, mais les Français, eux, pensent, c'est un sondage qui a été réalisé pour le grand jury, par Harris Interactive, pour nos médias, TF1, LCI, Le Figaro, RTL, un Français sur deux estime qu'il y a une proximité entre les listes Europe Écologie Les Verts et le PS Place Publique. Et une majorité de Français, 55%, estime aussi que les élus, ils, issus des listes socialistes et les vôtres, écologistes, eh bien, voteront le plus souvent de la même façon au Parlement européen. Donc, vos électeurs veulent l'Union. Ils disent que c'est vous ressemblez et vous leur dites non.
Dans ce sondage, il ne vous a pas échappé que il y a une attente très forte des électeurs socialistes pour dire les socialistes doivent faire de l'écologie. Mais les électeurs écologistes, ce qu'ils disent, c'est oh là là. Alors, la réalité, nous savons que ça n'est pas pareil. Moi, je fais un appel aux électeurs socialistes. Je sais combien ils considèrent aujourd'hui souvent que l'écologie doit être ce qui redéfinit l'économie, ce qui redéfinit nos priorités.
Mais dans le passé, les socialistes ont prouvé qu'ils pouvaient faire ça. Les accords de Paris sous François Hollande, c'était pas rien quand même.
Regardez, dans notre pays, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Les pesticides continuent d'augmenter en utilisation. La pollution de l'air, la France est devant la Cour européenne de justice parce qu'elle ne lutte pas contre la pollution de l'air. 67 000 morts prématurées par an, 180 par jour. On parlait, moi j'ai jamais dit ni gauche ni droite. Moi j'ai toujours dit l'écologie, elle a des valeurs extrêmement fortes. C'est la solidarité, ce sont les droits sociaux, ce sont les droits humains, c'est la
donc
lutte
vous êtes
contre
de gauche.
Toutes les...
Yannick Jadot, vous êtes de gauche.
Ce sont des valeurs
Jadot,
qui ont,
vous êtes un homme de gauche.
Ce sont des valeurs qui ont une histoire politique, mais qui ont été tellement dévoyées. Prenez le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Mais vous ne répondez pas à cette question.
Prenez le... Non, mais vous allez voir, écoutez ma réponse. Prenez le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous le qualifiez de droite ?
Oui, ça dépendait.
Dit Guillaume
alors,
Roquette.
Attention, on va arriver à la phrase suivante. C'est comment vous qualifierez le quinquennat de François Hollande ?
Bon, on va.
Bon, lui prétend que c'est un quinquennat.
C'est vos réponses qu'on attend.
Lui prétend que c'est un quinquennat de gauche. Ouais.
Social-libéral, on va dire.
Et Emmanuel Macron dit moi, je suis et la droite et la gauche. La même obsession du nucléaire, les mêmes contraintes pour le développement des énergies renouvelables. La même obsession de la FNSEA, d'un modèle agricole qui tue les paysans, abîme nos territoires, abîme l'environnement, anéantit la biodiversité, la même
donc
obsession.
Vous dites, donc, qu'on soit clair, vous dites non
ce
à,
que je
à,
veux,
à Raphaël
ce
Glucksmann,
que je
et vous
veux,
dites à leurs électeurs, là, aujourd'hui, vous nous dites, rejoignez-nous, c'est nous les vraies valeurs de l'écologie et de la gauche.
Je dis aux électeurs socialistes, comme à tous les électeurs humanistes, si vous voulez voter utilement pour l'écologie, pour l'humanisme, pour la solidarité, il faut voter écologiste parce que moi, j'entends Raphaël Glucksmann dans son discours hier.
Oui.
Il dit « Nous défendons un protectionnisme vert et solidaire ». Bon, là, il
vous
prend
aussi.
Le protectionnisme vert des écolos et il prend le protectionnisme solidaire de Jean-Luc Mélenchon. Bon, on pourrait imaginer qu'ils travaillent un peu leur programme, ils prennent le nôtre, pourquoi pas. Mais au Parlement européen, les socialistes votent tous les accords de libre-échange.
Alors,
c'est pas possible aujourd'hui d'avoir un tel gouffre entre les promesses, les discours et les actes.
Un peu de clarté de votre part aussi.
Ah mais je crois que
vous avez dit dans une interview récente au point que vous n'excluiez pas de faire alliance quand vous serez au Parlement européen avec les libéraux avec le PPE et éventuellement de soutenir Michel Barnier comme président de la Commission, qui est le candidat, on le sait déjà, d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas...
Vous avez lu de manière un peu étrange ma réponse. On me pose la question des coalitions. Qu'est-ce que je dis ? Je dis les écologistes ont toujours tenté de construire des coalitions au Parlement européen pour gagner sur nos combats. La question, ce n'est pas de la coalition avec le PPE, qui ne s'est même pas débarrassé d'Orban encore. Ils l'ont suspendu. Ils ne s'en sont pas débarrassés. Et ils l'ont suspendu, non pas parce qu'Orban avait fait une campagne assez largement antisémite contre George Soros, mais parce qu'Orban a osé attaquer Jean-Claude Juncker.
Le président de la Commission européenne.
Le président de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on dit ? Quand je gagne, quand les écologistes, quand le groupe vert gagne contre la pêche électrique, contre l'huile de palme, en essayant, quand on se combat les accords de libre-échange ou qu'on se bat sur les énergies renouvelables, nous construisons des coalitions, mais des coalitions de projets.
Et pas que gouvernement. De projet, ça veut dire que vous pouvez le faire avec éventuellement des gens de droite, des libéraux.
Monsieur Sportouche, vous savez comment fonctionne le Parlement européen ? Aucun groupe n'est majoritaire au Parlement européen. Mm-hmm. Quand nous gagnons sur la pêche électrique, c'est que nous avons convaincu des députés d'à peu près tous les groupes.
Bah, ça
quand
prouve bien que ce n'est pas si important que ça, le problème de l'appartenance à un groupe ou à un autre. Et c'est ce que vous nous avez dit au début pour expliquer que vous ne vouliez pas faire alliance avec Luc Mann.
C'est essentiel. Parce qu'à un moment donné, c'est la puissance, la cohérence, les convictions de votre groupe qui font que vous arrivez à convaincre les autres. Quand vous êtes perdu dans votre groupe, on verra ce que fera Glucksmann, on verra ce que feront les autres, on verra ce que fera Canfin chez les libéraux. Mais en fait, ils vont perdre, ils vont passer 80% de leur temps à essayer de convaincre leurs collègues de changer du tout au tout. Sur l'écologie, la force du groupe des Verts.
Ils seront vos alliés, du coup.
La force du groupe des Verts. Mais non, ils ne seront pas nos alliés.
Si Canfin vous aide à ce que l'oiseau vote pour vos propositions, ça sera bien.
C'est quand même incroyable de dire que pour défendre l'écologie, il faut rejoindre un groupe qui vote contre l'écologie.
Enfin, Canfin qui est sur la liste en marche.
Il y a quand même un moment donné, il y a une clarification de Nicolas Hulot sur tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas Hulot, qui, lui, a essayé d'écologiser ce gouvernement ? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Il a dit... Je vais arrêter de mentir, je ne vais pas me mentir. Participer à ce gouvernement est une mystification sur l'écologie. Vous rendez compte que le groupe libéral de Madame Loiseau...
Nathalie Loiseau, qui est la tête de liste d'En Marche pour les élections européennes.
C'est gentil de le rappeler.
Précise.
Dans ce groupe-là, ils votent contre tous les amendements sur la protection animale.
Oui, mais ils sont quand même.
Des farouches, il y a eu la tribune.
Il y a quand même eu des engagements d'Emmanuel Macron sur l'écologie, de zéro émission de carbone en 2050, la division par deux des pesticides d'ici 2025, c'est-à-dire demain.
Mais ça vous gêne pas que le président de la République, qui n'a pas le courage de mener ses réformes en France, renvoie à l'Europe le courage politique qu'il n'aurait pas. Vous savez, au niveau européen, si vous voulez convaincre, il faut être un minimum crédible. Il faut être crédible sur vos votes.
Donc vous ne croyez pas aux engagements d'Emmanuel Macron ?
Bah non.
Mais c'est-à-dire que ceux qui l'ont rejoint...
La question, c'est pas de croire ou pas aux engagements d'Emmanuel Macron, c'est de constater sa politique. Un gouvernement... Mais sur cette seule mesure, ce gouvernement et sa majorité ont reporté de 3 ans l'interdiction de production sur notre sol de pesticides que nous considérons beaucoup trop dangereux pour les utiliser chez nous. C'est d'un cynisme criminel.
Mais est-ce que ça veut dire, Yannick, ça veut dire que Daniel Cohn-Bendit, Pascal Durand, Pascal Canfin, qui sont des écologistes, alors, à moins que vous nous disiez qu'ils ne le sont plus, ou est-ce que ce sont des traîtres à votre cause en allant rejoindre...
Ce sont des écologistes qui se sont perdus. Ce sont des écologistes... Daniel Cohn-Bendit, il s'est entiché d'Emmanuel Macron depuis 2 ans. Il faudra m'expliquer ce qu'il a obtenu sur l'écologie ou sur les migrants. Hein, on a quand même une frontière... entre la France et l'Italie, mise en place par François Hollande, le Parti socialiste de Raphaël Guzman, et on a un président de la République qui a refusé l'Aquarius. Ce sont des thèmes, extrêmement importants pour Danny Cohn.
Mais Pascal Canfin... Qui a été au WWF, est-ce que vous pouvez le suspecter de ne pas être écologiste, de ne pas vouloir le bien de la planète
Vous savez, moi je suis très heureux qu'on parle, que tout le monde parle d'écologie. C'est quelque part notre victoire aussi. Mais... Franchement, aller rallier des mouvements politiques qui, dans leur politique, aujourd'hui, sur la souffrance animale, sur les pesticides, sur le dérèglement climatique, sur la transition énergétique, sur la pollution de l'air, font à peu près exactement le contraire de ce qu'ils disent aux tribunes ou dans les discours, je trouve ça profondément
triste. Allons jusqu'au bout des critiques qui vous sont adressées, et encore une fois par Raphaël Glucksmann à votre place il y a quelques semaines, et qui disait en fait, Yannick Jadot, mon ami, ne me rejoint pas parce qu'il a dans son viseur l'élection de 2022. Il s'est fait avoir en 2017 parce qu'il a rejoint Benoît Hamon.
C'est extraordinaire.
Eh bien, maintenant, il se projette et c'est pour ça qu'il part en solo. Est-ce que vous nous dites, Yannick Jadot, aujourd'hui, que si vous êtes élu député européen, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle de 2022?
Moi, je suis candidat à l'élection européenne. Enfin, c'est quand même extraordinaire.
Mais est-ce que vous ne le serez pas pour 2022?
C'est quand même extraordinaire. On m'accuse de tous les maux. En fait,
de vouloir votre revanche.
De ces responsables politiques, ils ont un problème, c'est ils ont un problème avec notre cohérence, avec notre clarté, avec notre sincérité. Parce que eux, ils ont bien compris qu'ils rejoignaient des mouvements politiques qui disent un truc à Paris et qui font le contraire au Parlement européen ou à Bruxelles. On me dit, Jadot, il a un melon gros comme ça. Mais tous, ils m'ont proposé de tirer la liste. D'une certaine façon, ça aurait dû satisfaire mon melon. Et puis, franchement, si j'avais dû choisir, si je devais faire un grand coup médiatique, j'aurais pris Ségolène Royal. Ça aurait eu un peu plus de gueule.
Vous lui avez dit non.
Je lui ai dit non, parce que la cohérence. J'ai été le seul candidat à l'élection présidentielle à me retirer pour mes idées. Parce qu'à un moment, on a fait ce pari que une union, ça pouvait mieux marcher. C'est un échec.
Et à vous entendre, vous avez l'impression que vous avez raison seul contre tous. Finalement, que la parole écologique dans ce pays, il n'y a que vous.
Non, j'ai dit à combien il était essentiel, combien j'étais heureux que tout le monde parle d'écologie, sauf que pour beaucoup, et sinon on n'aurait pas l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, on n'aurait pas toujours plus de pollution de l'air, on n'aurait pas toujours plus de pesticides, pour beaucoup, l'écologie est un discours. C'est une sorte de poudre de perlimpinpin. Vous le mettez sur votre projet, sur votre bilan. D'un seul coup, tout est devenu écolo, tout est devenu vert.
Y compris pour Raphaël Glucksmann, alors, à ce moment-là, vous
dites... Il n'y a pas de bilan.
Il saupoudre. Non, mais il saupoudre aussi.
Le Parti Socialiste, regardez, ils soutiennent le Lyon-Turin. Il a sur sa liste M. Clergeau, qui soutenait Notre-Dame-des-Landes. Ils soutiennent toujours le nucléaire. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est tous pareils. Ce que je veux dire, c'est que c'est par la cohérence... Et que pour beaucoup, l'écologie s'arrête où commence l'intérêt des lobbies, où commence la mise en scène du vieux monde, que nous, dans notre... C'est pas simplement une histoire de bilan, vous faites pas campagne sur un bilan, mais c'est notre cohérence, le fait que nous ne nous résignions jamais devant les lobbies, le fait que nous mettions l'écologie au cœur de tout. Nous voulons écrire une nouvelle page de l'histoire.
Mais quand vous voyez dans les sondages,
quand
vous additionnez vos voix et celles du Parti socialiste,
arrêtez avec ça,
vous êtes à 13 ou 14%. Mais vous dites pas que ça fait un bon gâchis?
Non. Parce que je dis que je veux pas mentir aux Français. Je veux pas dire à Paris, nous pensons pareil. Et puis, quand on ira à Strasbourg, les socialistes continueront à voter les accords de libre-échange. Les libéraux continueront à voter les accords de libre-échange.
Pareil, hein, d'après notre sondage.
Pardon ?
Les Français pensent que vous voterez pareil à 55%.
Mais écoutez, à nous de mieux informer sur le vote. Mais je comprends que les Français, parfois... Vous savez, quand vous interrogez les Français, ça vous a pas échappé ? Comment ils qualifient la politique ? Pour 1 sur 2, c'est de la méfiance. Pour 1 sur 3, c'est du dégoût. Il est temps d'avoir un peu de courage politique, de retrouver de la cohérence, de retrouver de la clarté. C'est ce que font les écologistes au Parlement européen comme sur le terrain, et c'est ce que ne font pas les autres, pardonnez-moi d'avoir à le répéter.
Christophe Jacubizi.
Mais justement, les Français, comment vous expliquez que l'écologie soit souvent dans le tête de leurs préoccupations, dans les différentes consultations qu'on peut faire, et en même temps que le pourcentage de voix qu'on prête aux écologistes reste relativement faible? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas justement échoué à convaincre les Français qu'on pouvait mener une politique 100% écologique et pas seulement faire du saupoudrage ou s'allier avec des partis politiques?
Ça a été rappelé en introduction, nous ne voulons plus être les supplétifs de personne. La force de l'écologie politique, et ça va être le grand sujet de cette campagne, c'est de montrer que notre écologie, elle est sociale. Elle est solidaire. J'étais hier dans l'Indre, aux côtés de ceux qui se battent contre la fermeture de la maternité, à côté de ceux qui se battent pour l'agriculture paysanne, qui se battent pour qu'on ait des transports du quotidien. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, ça fait 30 ans que parfois on vous moquait parce que vous combattiez le tout TGV et que vous nous alertiez sur la fermeture des petites gares. Ça fait 30 ans qu'on vous moquait parce que vous défendiez les commerces de proximité plutôt que les grandes surfaces en périphérie. Ça fait 30 ans peut-être qu'on vous moquait parce que vous défendiez une agriculture paysanne qui est la seule aujourd'hui qui peut sauver les paysans comme notre santé. Donc on est, je crois, à un point de basculement et que l'écologie aujourd'hui est la réponse au terroir, la question alors, de la relocalisation de l'économie.
On va d'abord écouter un agriculteur justement qui vous répond.
De la question de l'environnement.
C'est l'heure de la question en plus, justement interpellation d'un agriculteur.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour monsieur Jadot, je m'appelle Vincent Guyot, je suis agriculteur dans l'Aisne. Je suis utilisateur du glyphosate depuis mon installation car j'ai choisi de partir dans une technique de culture sans retournement de terre. Depuis plusieurs années, vous êtes en croisade contre le glyphosate. En m'interdisant son utilisation, êtes-vous conscient que 1. Vous allez me priver de ma liberté de choix, 2. Vous allez dégrader la compétitivité de mon exploitation et la mettre en danger. 3. Supprimer le glyphosate n'est pas une solution écologique parce que les alternatives ne le sont pas.
Yannick Jadot.
Je viens de l'Aisne aussi. J'ai grandi dans l'Aisne, en milieu rural. Ce que je vois, moi, dans les campagnes et sur les fermes que je visite beaucoup, c'est que de plus en plus d'agriculteurs sortent du glyphosate. Ils sortent du glyphosate parce que, à la fois, c'est un enjeu de santé pour eux. Regardez les procès aux États-Unis, les condamnations de Monsanto. La justice américaine reconnaît le danger majeur du glyphosate et sa responsabilité dans la multiplication des cancers, notamment ce qu'on appelle le lymphome non-Hodgkinien. C'est un peu technique, mais c'est ça. C'est une maladie du sang.
Vous entendez son inquiétude.
J'entends son inquiétude. Pendant des années, on a dit aux agriculteurs, allez-y, mettez des pesticides, mettez du glyphosate. Et qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que nous voulons faire avec Benoît Biteau, paysan, qui est passé en bio, avec Claude Gruffat, l'ancien président du réseau des Biocop, et tous les paysans qui sont sur la liste. Qu'est-ce qu'on veut faire? On a un formidable outil européen. Ça s'appelle la politique agricole commune.
Réserver aux agriculteurs bio.
C'est 9 milliards d'euros. Ah bah aujourd'hui, avec ce gouvernement d'ailleurs sur le bio, j'ai oublié de mentionner ce petit détail, mais qui est dramatique pour les agriculteurs bio. Les agriculteurs bio ne touchent pas leurs aides.
Non, mais sur cette question que vous posez, Guillaume Roquette, est-ce qu'il faut la réserver aux agriculteurs bio, l'aide de la politique agricole commune?
9 milliards d'euros d'argent public. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soutienne les agriculteurs bio et qu'on aide tous ceux qui ne sont pas en bio, à passer en bio.
Mais parce que, qu'est-ce qu'on fait des 9 milliards? Est-ce qu'on les réserve aux agriculteurs qui s'engagent, par exemple, dans le bois bio?
On les réserve à... nous, on a deux priorités. Revenu décent des agriculteurs, sortie des pesticides en 15 ans. Le glyphosate est aujourd'hui trop dangereux pour qu'on continue à reporter l'échéance.
Donc, moi, je connais... Les agriculteurs qui continuent à utiliser le glyphosate, il faut
on va les aider à en sortir. On va les aider à en sortir. Mais vous savez,
ce qui se passe sur le terrain... Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, vous le savez.
Non, c'est faux.
Qu'il n'y a pas de désherbant aussi efficace.
Mais vous vous rendez compte qu'à ça, qu'il n'y ait pas de désherbant aussi efficace, ça c'est sûr qu'il est total et il est aussi extrêmement efficace à nous filer des maladies. Donc celui-là, on n'en veut plus. Mais moi, j'invite cet agriculteur, comme beaucoup le font aujourd'hui, c'est d'aller voir les agriculteurs qui sont sortis du glyphosate et ceux qui n'en utilisent pas, justement... pour les aider à en sortir. Et puis, l'idée du couvert végétal, c'est quand même une blague absolue.
Le couvert végétal.
C'est quoi ça?
L'un des arguments, vous avez totalement écouté, de notre agriculteur de l'Aisne. Il dit, avec le glyphosate, je permets un couvert végétal. Et donc, quelque part, ça continue à absorber, il y a moins de trucs. Ce que font les agriculteurs qui sortent du glyphosate, c'est qu'ils vont cultiver de la moutarde en interculture, ils vont cultiver un certain nombre de choses qui va enrichir le sol, qui va rendre le sol de nouveau vivant et qui va enrichir le sol et permettre d'avoir des meilleurs rendements sur toutes les cultures. Ça existe. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec les agriculteurs bio, je vais vous le dire, c'est qu'on nous fait croire que l'innovation, aujourd'hui en agriculture, c'est la molécule de synthèse ultra plus plus de Monsanto. Là, ceux qui innovent, ceux qui font le plus de recherches, ce sont les agriculteurs bio. C'est pas l'agriculture d'il y a un siècle, l'agriculture biologique. C'est l'agriculture qui respecte la nature, qui... Vous savez ce que me disait Gruffat, l'ancien président des Biocop? Si on satisfaisait aujourd'hui la demande de consommation bio locale sur notre territoire, en France,
si on la satisfait. On créerait, on installerait 60 000 agriculteurs bio en quelques années. Alors, c'est pas un beau projet social et écologique ?
Alors on voit bien l'impact concret, c'est-à-dire on n'utilise plus de glyphosate, effectivement ça change. Sur le climat, que répondez-vous à ceux qui disent la France émet moins de 1% des gaz à effet de serre et que donc elle est très peu responsable du réchauffement climatique ? Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre des mesures contraignantes ?
Ah mais ça, si tous les pays se mettent dans cette posture-là, plus personne n'agit. Parce que d'une certaine façon, les Chinois pourraient dire, alors nous on est en production le plus grand pollueur de la planète aujourd'hui, mais par tête de pipe, on n'est pas le plus grand pollueur. Et puis surtout, on produit beaucoup de gaz à effet de serre pour ce que vous consommez, les pays occidentaux. Donc ils pourraient dire, c'est pas notre responsabilité. Trump fait exactement le même discours. C'est pas notre affaire.
Vous avez été objectif. Les Américains et les Chinois émettent plus de gaz à effet de serre que nous.
Ça, c'est vrai. Pas par tête de pipe, hein, pas les Chinois. Les Américains, oui, vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que nous appartenons à une grande communauté humaine. Nous sommes face au plus grand défi de l'humanité, qui est le dérèglement climatique. Si nous continuons, les engagements des États aujourd'hui, c'est 3-4 degrés de réchauffement climatique, c'est un chaos climatique absolu. Ça va déstabiliser complètement nos sociétés. Et à ce moment-là, gilets jaunes, gilets verts, gilets rouges, il n'y aura plus que des gilets de sauvetage et il y aura tellement de conflits qu'il n'y en aura pas pour tout le monde.
Christophe Lacubizine.
Nous avons la responsabilité, et c'est là que l'Europe est importante, nous avons la responsabilité que l'Europe devienne le leader mondial du climat, pas simplement dans les discours, mais dans les actes. Ce sera la meilleure façon de contrer Poutine, de contrer Trump ou de contrer...
Juste une question, vous vous voyez commissaire européen à l'environnement ou pas ? Yannick Jadot.
Mais je veux être député, je suis très heureux d'être député.
Est-ce que ça pourrait être une aspiration ?
Mais vous savez que le poste de commissaire européen...
Bah oui ou non ?
Le poste de commissaire européen est désigné par le gouvernement en place. Il ne vous a pas échappé que, contrairement à un certain nombre, j'avais quelques difficultés avec ce gouvernement du point de vue de l'engagement.
Si vous le proposez, Yannick Jadot, est-ce que vous accepterez ?
Est-ce qu'on peut avoir un peu de cohérence ? Est-ce qu'à un moment donné, la politique, ce n'est pas simplement aller manger là où l'assiette est la plus chargée ?
Donc vous nous dites non, parce que j'entends c'est non.
Mais non, parce que moi je suis cohérent.
D'accord.
Moi,
ça
fait 30 ans que je me bats pour l'écologie. Mm-hmm. J'ai été au Burkina Faso. J'ai été au Bangladesh, j'ai été à Greenpeace, je suis au Parlement européen. L'écologie, c'est le combat de ma vie. Alors, je suis très heureux que tout le monde en parle, mais j'aimerais que vos auditrices, vos auditeurs, comme vos téléspectatrices et vos téléspectateurs, entendent, et vos lectrices, vos lecteurs...
Bien sûr, on ne les oublie pas.
Tout le monde, c'est des millions, tout ça. Ils entendent bien que l'écologie, c'est ce qui va nous permettre de nous réconcilier avec notre avenir, c'est le grand projet européen.
Alors, Christophe Jacques, soyons concrets.
Une question concrète, on a parlé de la qualité de l'air, la réputation de la France, etc. Soyons concrets, nos enfants, quand ils habitent notamment dans les villes ou à la campagne avec les pesticides, respirent de l'air pollué. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, interdire la circulation aux abords des écoles au moment de la sortie des écoles ? Est-ce qu'on peut restreindre la circulation le dimanche, comme certaines villes le font ? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ?
Pour instaurer un péage urbain. Vous n'êtes pas dans votre projet européen très concret. Vous pouvez le faire au niveau de l'Europe.
Vous savez que la plupart des normes de pollution, elles sont définies au niveau européen. Quand je vous dis que la Commission européenne met l'État français devant la Cour européenne de justice, c'est bien parce qu'on n'applique pas les règles européennes.
Alors Yannick Jadot, on vous entend et on arrive à la pause de cette émission. Vous allez nous détailler vos propositions dans la seconde partie de ce grand jury.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie, Yannick Jadot.
Qui repose la question que vous avez posée parce qu'on a été interrompu par la publicité, mais concrètement, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous imposeriez comme contrainte supplémentaire sur la circulation, sur le péage urbain, sur le transport aérien ? C'est quoi vos propositions concrètes ?
Alors, si je le prends dans l'autre sens, le transport aérien, il faut le taxer.
Taxer le kérosène ?
Il faut taxer le kérosène. Ce sont à la fois...
Au niveau national, simplement.
Oui, mais on peut le faire au niveau européen. On peut se battre pour que ça se fasse au niveau européen. Mais montrons l'exemple. Faisons-le au niveau national. Et d'ailleurs, c'est souvent une des demandes.
Donc sur les billets, comment on taxe concrètement ? Dites-nous.
Ah ben c'est simplement, on taxe le kérosène.
Oui, mais du coup, ça va se répercuter sur le billet des avions.
Il est possible que des low-cost soient un peu moins low-cost.
Mais quand vous faites le plein pour aller bosser ou pour aller trouver chercher un boulot, vous êtes taxé à 50-60%.
Vous évitez de prendre l'avion, vous ? Vous évitez de prendre l'avion, vous ?
J'essaye, oui. J'essaye. Et puis c'est même, vous savez, dans une campagne, c'est pas toujours facile parce qu'il y a un certain nombre de villes en France, quand vous y allez en train, ça vous prend une bonne partie de la journée.
Et quand vous essayez de faire compenser votre bilan carbone
après. Oui, mais vous savez,
comment expliquez-nous, parce que c'est des choses concrètes qu'on peut.
Oui, mais il y a 10 jours, je suis allé faire campagne aux Antilles, en Guadeloupe, à la Martinique, notamment pour constater le désastre absolu généré par la chlordécone. Pas simplement en matière de santé. Je veux dire, les gens, la Martinique, c'est le record mondial des cancers de la prostate. Et vous avez un président de la République qui dit « Non, non, moi, je ne fais pas de lien entre la chlordécone et les cancers. »
Utilisé pour la culture des bananes, c'est ça ?
Bien sûr, qui a été utilisé pour la culture des bananes. Il va y voir, les sols sont contaminés pour 600 à 700 ans. 600 à 700 ans. Les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher. C'est un drame absolu.
Donc vous allez là-bas en avion ?
Donc j'y suis allé là-bas en avion. Donc taxer le kérosène. Oui, moi je crois que notamment en ville, là où il y a le plus de pollution, il va falloir sacrément réglementer la circulation autour des écoles.
Autour des écoles. Autour des écoles. Hein,
ça veut dire quoi ? Moi, mes enfants, moi je suis né, je l'ai dit, je suis très attaché à l'Aisne où je suis né, en Picardie. J'ai élevé mes enfants à Paris. Franchement, les maladies des gamins, il y a un moment, il faut peut-être qu'on arrête. C'est quand même incroyable que dès qu'il fasse beau dans ce pays, dans la moitié des écoles, les enfants ne peuvent pas jouer dans les cours de récré. Qu'ils aillent écouter les pédiatres dire à quel point nos gamins, et puis écouter les difficultés des personnes âgées à se déplacer quand il y a de la pollution.
Quel autour des écoles ? C'est quoi le périmètre ?
J'en sais rien, il faut voir. Non mais il faut le mettre en place
est-ce
avec
que ça,
des
ça
experts.
Est-ce que ça se fait aussi au niveau européen ?
Avec
est-ce
des
qu'il
experts.
Faut que ce soit au niveau européen ?
Non,
d'imposer.
Je suis pas certain. Je suis pas certain. Moi, ce que j'aimerais au niveau européen, et le combat qu'on a mené au niveau européen, c'est comment on sort du diesel et comment on impose aux constructeurs automobiles des normes sur le CO2 comme sur le diesel. Il ne vous a pas échappé que les constructeurs automobiles européens se sont fait prendre la main dans le sac sur l'illégalité de leur comportement, la fraude organisée, que je considère être une fraude criminelle, sur la pollution. Vous avez vu encore comment BMW, Daimler et Volkswagen se sont mis d'accord pour qu'il n'y en ait pas un d'entre eux qui mette en place dans les automobiles la réduction de la pollution.
Alors, vous voyez que le côté négatif, parce que les constructeurs automobiles, ils fabriquent aussi des modèles qui sont de moins en moins polluants. Ils existent, ces progrès-là.
Mais il y a une partie de progrès. Mais moi, vous savez, ça fait 20 ans que je travaille sur la pollution de l'air. Je travaille avec les salariés de l'automobile, travailler avec les consommateurs, avec les associations.
Donc vous voyez des voitures qui polluent de moins en moins ?
Non, pas forcément, pas toujours, malheureusement. Parce qu'en fait, les constructeurs automobiles, quelle est leur démarche vis-à-vis des gouvernements et des députés européens ? Ils viennent, ils disent « Oh là là, on ne peut pas faire reculer, augmenter l'objectif pour réduire le moins possible leur pollution. » Et après, ils s'organisent avec la complicité des gouvernements pour tricher. Vous vous souvenez du précédent gouvernement ? Quand Ségolène Royal va à Bruxelles pour faire en sorte que les constructeurs automobiles puissent polluer deux fois plus que la norme autorisée. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Eh bien, ils font des véhicules de plus en plus puissants. Ils font des véhicules avec plus d'options, des véhicules plus lourds. Notre combat.
Mais soyons concrets, Yannick Jadot. Est-ce que
vous
êtes pour des péages urbains aux entrées de ville ?
Non.
75% des Français, en effet, sont dépendants de la voiture aujourd'hui. Est-ce que vous voulez imposer la voiture électrique dans les centres-villes d'ici 2030, par exemple ? Vous-même, est-ce que vous roulez à l'électrique ou pas ?
Moi, j'ai pas de voiture.
Vous n'avez pas de voiture, donc vous déplacez transport en commun.
Mais je sais.
Mais là-dessus,
Je sais d'où je viens. On parlait de la Picardie de l'Aisne. Ma maman, elle vit dans un village, elle a besoin d'une voiture. Il n'y a pas de sujet.
Et elle ne peut pas rouler à l'électrique aujourd'hui.
Donc, elle est contre la taxe carbone ?
Mais non, elle est pour ce que je porte.
Pardon, comme c'est
pas une idée
anecdotique,
écolo.
Hein, vous le savez
elle
bien.
Elle est très écolo. Qu'est-ce qu'on a dit sur la taxe carbone ? On a dit chaque euro collecté doit être un euro pour accompagner les Français dans la transition et pour investir. Malheureusement, ce qu'ont fait les gouvernements, ils ont compensé la suppression de l'ISF, ils ont compensé la flat tax avec une fiscalité éco. Qu'est-ce que nous disons, nous ? Nous voulons travailler avec les salariés de l'automobile un grand plan pour faire la voiture qui consomme moins et qui pollue moins. Nous voulons un plan Marshall d'investissement sur les transports du quotidien.
Mais vous voulez aussi le rétablissement de la taxe carbone sur le diesel et sur l'essence.
Pardon ?
Est-ce que vous voulez qu'on remette la taxe carbone comme c'était prévu ?
Il faut continuer la trajectoire. Nous, on a toujours soutenu ça.
Ce matin, dans le JLD, qu'il n'y aura pas de retour de la taxe carbone.
Oui, bah écoutez... C'est quand même à l'origine
du mouvement des Gilets jaunes. Et ça vous préoccupe pas.
C'est une partie. Mais ça me préoccupe énormément. Quand je suis en permanence...
C'est l'écologie punitive, dirait Ségolène Royal.
Oui, bah d'ailleurs, qui a bien montré... Vous savez, quand est-ce qu'on punit les Français ? On les punit quand leurs enfants n'arrivent pas à respirer. On les punit quand les paysans... souffrent de maladies liées aux pesticides. On les punit quand l'ensemble de nos organismes sont contaminés par les produits chimiques. On nous punit quand le dérèglement climatique est en train de remettre en cause l'organisation même de nos sociétés, la survie du vivant. Là, on nous punit.
Alors justement,
en revanche... Oui. Non, attendez, il faut quand même que vous me laissiez répondre aux questions, sinon ça ne va pas. Donc... La fiscalité écolo, ça doit servir à financer les transports du quotidien. Je le disais, j'étais hier au Blanc, fermeture de la maternité. Vous savez, sur un territoire, quand vous fermez l'endroit où on donne la vie, ça dit très clairement ce qu'on veut faire de ces territoires. On veut les laisser mourir.
L'argument du gouvernement, c'est de dire que ce sont souvent des structures où le risque sanitaire est plus élevé.
C'est totalement faux. Sur place, ils ont de très bonnes statistiques sur la maternité, un très bon accompagnement. Là, ce que fait ce gouvernement, c'est de mettre en danger la vie des femmes et la vie des enfants. Et dans ce même endroit, ils ferment les gares. Donc non seulement les familles vont être à une heure et quart pour accoucher potentiellement, mais en plus, si vous voulez travailler dans cette zone-là, vous n'avez plus de gare. Vous n'avez plus de train. Et ça, c'est profondément choquant. Ce que veulent faire les écologistes, y compris avec notre plan d'investissement européen, c'est l'Europe des terroirs. L'Europe où, sur l'agriculture paysanne et biologique, sur les énergies renouvelables, sur la rénovation de nos logements, sur la mobilité, sur la culture, l'éducation, la santé, nous voulons avoir des territoires vivants.
Vous voyez ce que vous disent les Français, par exemple, sur les énergies renouvelables. Ils sont pour, et en même temps, les éoliennes, eh ben, dans le grand débat...
Vous ne regardez pas les bonnes enquêtes. Les enquêtes, c'est 80% de soutien à l'éolien. Regardez, l'enquête qui a été faite, c'est 80% de soutien, y compris à côté de chez soi. Moi, j'ai sur la liste le patron de Valorem, qui est une entreprise d'Aquitaine, de Bègles. Qu'est-ce qui est fait ? Vous avez dans son entreprise des jeunes de Polytechnique, des jeunes en insertion professionnelle. Il a plein de projets d'énergie renouvelable. Il va sur les entreprises de la région ou les entreprises françaises. Ça marche super bien. Vous avez même General Electric, Siemens, même les grosses entreprises attendent que le gouvernement cesse de mettre des bâtons dans les roues des énergies renouvelables pour qu'elles se développent. Vous vous rendez compte ? Si l'Europe dépendait du soleil, du vent, de la géothermie, de la biomasse, plutôt que de Poutine, de Trump, des dictatures
nous,
du Golfe et du pétrolier.
C'est pas Poutine et Trump.
Ben, l'uranium, vous le trouvez où ? L'uranium, on ne l'a pas en France. Et franchement, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est deux fois moins cher que le nucléaire et ça crée deux fois plus d'emplois.
Donc pour le nucléaire, on se met dans la main des puissances étrangères aussi, c'est ce que vous nous dites.
Ben oui, quand vous dépendez, qui veut pour votre nucléaire, de l'uranium, vous dépendez de pays étrangers. Mais franchement, est-ce que notre projet à nos enfants, c'est de dire on a des vieilles centrales, peut-être ça va nous péter à la gueule. Et relisez les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire. Tout devient dangereux. Est-ce qu'on attend que ça nous pète à la gueule ?
Alors, sur les enfants, justement.
Où on a des énergies renouvelables
sur nos enfants, comme vous dites, Christophe Jacuilly.
Il y a eu des centaines de parents qui ont participé à une réunion d'information en Loire-Atlantique, hein, parce qu'ils sont inquiets de la multiplication des cas de cancer de manière locale. Est-ce que vous pensez que c'est une cause environnementale ou est-ce qu'il est trop tôt pour se prononcer ?
C'est difficile, c'est trop tôt pour se prononcer. En revanche, ce sur quoi il faut se prononcer, c'est l'impératif d'un travail épidémiologique. Vous savez combien les écologistes ont par exemple soutenu, accompagné, défendu Emmanuel Amar, c'est la lanceuse d'alerte sur les bébés sans bras.
Vous avez accusé l'usage des pesticides.
Oui, mais d'ailleurs, on ne nous accuse plus. Ça ne vous a pas échappé. On ne nous accuse plus. L'accusation de Mme Buzyn, c'était de dire « Oh là là !» tout ça, et puis elle a voulu licencier Emmanuel Hamar, on fait taire les lanceuses d'alerte ou les lanceurs d'alerte. C'est toujours le cas.
Donc qu'est-ce que vous souhaitez sur les...
Sur l'amiante. Regardez ce qui s'est passé sur le Levothyrox. Sur le Levothyrox, c'est quand même extraordinaire. On a dit à toutes ces personnes...
Changement de la formule du médicament, je rappelle.
On a changement de la formule. On a dit à toutes ces personnes qui me plaignaient, ah bah vous êtes des hystériques. Hein, vous n'avez plus de thyroïde, machin, vous êtes des hystériques. Et finalement, on apprend qu'il y a des vrais dégâts pour ceux qui utilisaient ça. Donc moi, j'aimerais que l'État français, sur tous ces sujets-là, parce qu'on sait qu'il y a une explosion des maladies chroniques, des cancers liés à l'environnement, ça, c'est acquis. Moi, j'aimerais qu'on ait un vrai travail d'épidémiologie, et puis surtout, qu'on réduise les problèmes à la source.
Hein, mais vous voulez, vous voulez un registre, par exemple, aussi sur ces quatre cancers, est-ce que vous dites qu'il faut établir un registre national ?
Un registre national, bien sûr.
Quand vous dites un travail épidémiologique, ça veut dire, en fait, mesurer objectivement le tort que peuvent causer tous ces produits.
Bien sûr.
Et on a franchi un palier, là, avec la Cour de cassation, qui a reconnu qu'on pouvait éventuellement indemniser des gens pour une espèce de... pour la peur qu'ils ont pu recevoir. On appelle ça le préjudice d'anxiété, même si la nocivité, par exemple, de l'amiante n'était pas reconnue dans certains cas. Est-ce que vous êtes pour ça, ou est-ce que c'est une dérive, quand même ?
Mais non. Vous vous rendez compte que on va avoir dans notre pays, selon les estimations, entre 130 000 et 480 000 cancers liés à l'amiante. C'est 3 000 cancers.
Préjudice d'anxiété, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet direct, mais que les gens ont eu peur, peut-être à cause de vos propos, par exemple, et que du coup, il faut les indemniser.
Ça, c'est gonflé. Enfin, vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous êtes en train de nous expliquer que ce sont les écologistes qui créent l'anxiété sur les gens qui développent un cancer de la plèvre. Est-ce que vous les avez vus ? Ces personnes qui ont un cancer de la plèvre.
Là, on va être sérieux.
Là, en l'occurrence,
est-ce que vous avez vu
justement la le préjudice d'anxiété, ça veut dire qu'il n'y a pas ces maladies-là. Mais il y a des gens qui ont été angoissés, stressés.
Ils ont un risque énorme de l'avoir, qui met les personnes dans des situations dramatiques. Je répète, j'ai vu la même chose en Martinique.
Oui, mais là, vous avez des gens qui sont vraiment malades, vous comprenez ? Le préjudice d'anxiété, vous le savez bien, c'est autre chose.
C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, juste un instant, Yagado, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que, par exemple, eh bien, sur l'utilisation du Wi-Fi, sur les ondes, par exemple, est-ce que le principe d'anxiété ne pourrait pas un jour être invoqué par ceux qui l'écrivent ?
Attendez, on parle de l'amiante, là. Enfin, excusez-moi, c'est quand même un scandale d'État, l'amiante. On a mis 25 ans à interdire l'amiante, alors qu'on avait dit que c'était cancérogène. On a laissé, au nom des lobbies, toujours ces lobbies qui gangrènent l'État contre les écologistes. Et là aussi, on nous insultait en disant « Vous êtes des lanceurs d'alerte irresponsables. » 3000 cancers par an.
Oui, mais
est-ce que vous avez vu la
difficulté ? Pardon, mais le préjudice d'anxiété, c'est pas ça.
Mais
c'est
quand,
pas la maladie,
quand vous
c'est
avez,
l'inquiétude.
Quand, non, mais c'est pas l'inquiétude. C'est le fait d'avoir, dans sa vie professionnelle, été exposé à l'amiante, qui conduit évidemment à une anxiété et à des troubles permanents de dire « je vais attraper cette maladie, je vois mes anciens collègues comment cette maladie les fait abominablement souffrir ». Oui, c'est une anxiété. Et qu'on a mis tellement de temps et on n'a toujours pas... la justice n'a toujours pas tranché sur les responsables de ce scandale d'État. Que,
on
évidemment,
vous a entendu sur l'amiante, Yannick Jadot, mais il faut qu'on avance sur d'autres questions. Christophe Jacubizi.
Alors, on va changer de sujet, mais c'est quand même un sujet qui concerne l'Europe. Dans une réunion des ministres de l'Intérieur européens, Christophe Castaner a affirmé cette semaine que certaines ONG étaient complices des passeurs, des mafias qui exploitent les migrants, en étant en contact, notamment téléphonique, directement avec eux pour organiser le départ des bateaux vers l'Europe.
J'étais scandalisé de cette déclaration. Que franchement, le ministre de l'Intérieur français reprenne exactement les éléments de langage de l'extrême droite italienne m'a profondément choqué. Aujourd'hui, depuis 4 ans, en Méditerranée, vous avez eu 12 000 morts. 12 000 morts en Méditerranée. C'est comme si on rayait de la carte Le Bourget ou Arcachon. 12 000 morts. Si il y en a qui survivent à cette traversée abominable, c'est parce qu'il y a des bateaux d'associations qui leur sauvent la vie. C'est notre responsabilité, je dirais même c'est une obligation du droit international, de mettre le doigt, comme il le fait, sur les associations qui sauvent les vies et de négocier en même temps.
C'est ce que fait M. Castaner. Avec les passeurs pour organiser les départs.
C'est ce que fait M. Castaner. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il organise le maintien des migrants dans le désert libyen. Il fait ça, il organise ça avec les milices libyennes. Eh bien, ça, c'est choquant. Parce
vous
que
dites
dans
qu'il
le
organise
désert,
cela avec les milices libyennes.
Bien
le
sûr,
ministre de la Cour est complice des milices libyennes.
Bien sûr. Quand l'Europe passe des conventions avec la Libye, finance la Libye pour qu'ils s'occupent des migrants et qu'ils ne viennent jamais en Europe, vous organisez, de fait, les violences, les viols, les meurtres, le racket qui s'organise en Libye.
Mais le principe d'empêcher les migrants de venir en Europe, c'est quelque chose que vous contestez.
Ah non. Nous, on y travaille beaucoup. Quand on dit qu'on veut lutter contre le dérèglement climatique, quand on dit qu'on veut lutter contre le pillage des ressources en Afrique et ailleurs, quand on dit qu'on veut qu'il y ait plus de terres habitables et qu'on défende les terres qui sont aujourd'hui habitables, je peux vous dire que c'est de loin, de très très loin, la meilleure réponse à la question des migrants ou des migrations contraintes. Si les gens se déplacent, c'est pas parce que au Tchad ou en Éthiopie ou ailleurs, ils émettent beaucoup de CO2. C'est parce qu'ils
espèrent
sont victimes.
Une vie meilleure en Europe.
Pardon ?
C'est parce qu'ils espèrent une vie meilleure en Europe.
Alors, dans 9 cas sur 10, ils restent dans le pays ou ils vont dans un pays voisin. Ceux qui absorbent le plus les migrations internationales aujourd'hui sont les pays voisins. Aujourd'hui, quand ils fuient des dictatures, eh bien, effectivement, ils espèrent vivre un peu en dignité. Ils sont parfois des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre ou des personnes qui ne peuvent plus vivre dans leur pays parce que les conditions environnementales ne permettent plus ça. Alors oui, nous défendons un statut de réfugié climatique. Oui, nous considérons que l'Europe doit assumer sa responsabilité à la fois en accueillant les migrants, les réfugiés qui, y compris, viennent en Europe. C'est une infime partie, mais une partie vit en Europe. Il faut les accueillir. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de raison
Yannick Jadot,
de quitter leur pays.
Autre
leur
sujet famille. D'actualité de cette semaine, Christophe Jacubizine.
On a appris, c'est une enquête de Libération, qu'en fait, le gouvernement avait préparé un plan de rapatriement des djihadistes, des hommes, des femmes et des enfants français, lorsqu'ils étaient menacés de peine de mort dans le pays où ils allaient être jugés. Finalement, cette expédition a été abandonnée sous la pression de l'opinion publique. Est-ce que vous regrettez qu'on laisse finalement les djihadistes et leurs familles aux mains d'une justice qui sera peut-être extrêmement sévère ?
Yannick Jadot.
Ah, mon sujet, ce n'est pas que la justice soit sévère. Sur les djihadistes et les terroristes, la justice
y
doit être sévère.
Y compris jusqu'à la peine de mort.
Mon seul sujet, c'est la sécurité des Français. Notre seul
Donc,
sujet,
y compris jusqu'à
c'est
la
sécurité des Français. C'est pour ça que nous soutenons le rapatriement des djihadistes. Vous pensez vraiment que les Kurdes vont arriver à maintenir enfermés tous ces djihadistes pendant des années, des années, des années ? À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se retrouver dans la nature. Si on ne rapatrie pas les enfants, ils vont se construire, eux, à la fois ils vont vivre dans des conditions absolument dramatiques, et ils vont se construire dans la haine
de notre
pays.
Donc on rapatrie les enfants, mais aussi leurs parents, c'est ce
mais
que vous
Mais bien
dites.
Sûr, moi je veux qu'ils soient jugés en
c'est
France.
Ils sont moins dangereux en France qu'à l'étranger.
Ah ben ça c'est sûr. Enfermés en France, ils sont beaucoup plus nous sommes beaucoup plus en sécurité que de les laisser dans des camps dont nous ne savons pas les conditions de sécurité, notamment dans la partie kurde de la Syrie aujourd'hui.
Alors, on arrive à l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad, beaucoup Bonjour. De commentaires en
Exactement.
Direct sur
Exactement, bonjour
sociaux.
À tous, bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Donc les internautes vous suivent en direct et ils sont vraiment embêtés parce qu'ils ne vous comprennent pas. Donc par exemple Jean-Luc, lui, il vous reproche d'être allé une fois à droite, une fois à gauche, une
ah
fois
bon
au centre et il s'énerve de votre côté girouette, c'est le mot qu'il emploie. Et Alain, lui, il se définit comme un écologiste mais il n'a pas confiance en vous, il n'y croit pas. C'est quand même des critiques assez fortes. Est-ce que vous reconnaissez qu'à force, ben, vous les avez complètement perdus ?
Ah non. Un, on ne les a pas perdus. On est en train de les retrouver. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est quand même assez rigolo de dire que j'ai été à gauche, à droite.
Vous avez soutenu Benoît Hamon.
Pardon ?
Vous avez soutenu Benoît Hamon.
J'ai toujours été écologiste. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai jamais été dans aucun autre parti. J'en vois bien qui se déplace.
Même si on a du mal à vous entendre dire que vous êtes de gauche, donc vous l'avez pas dit.
Mais bon, j'ai, dit, droit, j'ai hein. dit quelles étaient les valeurs. Moi, je sais comment j'ai voté dans ma vie. Je sais quelles sont mes valeurs. Mais franchement, aujourd'hui, on a jamais fait de compromis avec le productivisme de droite. Jamais. Mais moi, je veux m'affranchir du productivisme
au second tour de l'élection
et du nationalisme.
Vous avez voté Emmanuel Macron face
et bien
à. Et donc,
sûr,
mais là, quand on vous dit
hésiter.
Que vous allez faire le jeu des nationalistes, que vous dit Glucksmann. Vous lui répondez
mais
quoi
vous savez comment les nationalistes montent ? Comment le désespoir dans la politique monte ? C'est sur l'incohérence. de dire un truc à Paris. Moi, je suis pour le climat, je suis pour le protectionnisme vert, et puis d'arriver à Strasbourg, au Parlement européen, et de voter l'inverse. Quand on défend, nous, le protectionnisme vert, c'est quoi? C'est de dire, il faut une taxe très forte aux frontières de l'Union européenne sur le carbone. Il faut interdire, d'ici 5 ans, les produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est de sanctuariser nos services publics. Vous vous rendez compte que la France est en train de privatiser ses barrages quand l'Allemagne ne le force pas. Alors, que la France est en train de vendre à la découpe nos joyaux sur les aéroports et tout ça quand les autres pays ne le font pas. C'est ça la cohérence de l'écologie des internautes, au niveau européen.
Oui, alors ça concerne le Trash Tag Challenge. Donc c'est un défi lancé par les internautes sur les réseaux sociaux. Ils prennent une rue, une plage, une forêt qui est complètement polluée. Ils les nettoient de fond en comble. Et après, ils mettent les photos sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde s'y met, au Népal, aux États-Unis, en Inde, aux Philippines et aussi en France, même si ce défi reste quand même assez timide pour les Français. Donc comment est-ce que vous l'expliquez? En théorie, les Français sont pour l'écologie, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué.
Ça dépend. Moi, je vois aussi toutes les opérations de ramassage sur les plages. Je vois notamment ces Surfriders qui avaient lancé ça au début. Il y en a un peu partout maintenant. Ça se développe. Moi, je suis très fier que la numéro 4 de la liste soit Marie Toussaint. C'est elle qui a lancé l'affaire du siècle. 2,2 millions de signatures. Donc, c'est la plus grande pétition jamais faite dans notre pays pour justement critiquer l'inaction des États. Je soutiens même le recours de la Ligue de protection des oiseaux, qui est obligée en permanence de rappeler à l'État ses obligations en matière de protection des oiseaux et ne pas céder en permanence aux folies des chasseurs. Donc la société est en train de venir sur l'écologie. Et la bonne nouvelle, c'est que l'écologie, c'est pas simplement éviter le chaos. Je l'ai dit, c'est relocaliser l'économie sur nos territoires qu'on a tellement besoin. C'est recréer beaucoup d'emplois de qualité. C'est offrir un avenir à nos enfants. Et économiquement, socialement, c'est nous qui sommes rationnels aujourd'hui.
C'est
nous
qui sommes concrets. Est-ce que c'est aussi travailler peut-être aussi plus longtemps pour financer tout cela? Il y a un débat sur les 65 ans. Est-ce que vous le trouvez totalement illégitime, ce débat?
Je le trouve absurde. Parce que quand on regarde le comité de suivi des retraites, ils disent en fait qu'il n'y a pas de problème financier sur le financement des retraites.
Donc c'est un grand mensonge d'État ?
Non, parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils ont amené la question de la dépendance. C'est un autre sujet.
Parce qu'il faut la financer.
Sur la question des retraites, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, une personne sur deux qui liquide sa retraite n'est plus en activité, est en maladie, en invalidité ou en RSA. Qu'est-ce qu'on veut faire ? L'espérance de vie. Vous savez quelle est l'espérance de vie à la naissance des hommes ? 62 ans. Donc en fait, on est en train de vouloir faire travailler plus tard pour se retrouver dans des situations difficiles. On va reporter l'âge de la retraite. Ce sont ceux qui ont travaillé le plus durement dans leur vie qui vont le subir. On a une différence d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres de 6 ans et de 10 ans quand il s'agit de ne pas être en bonne santé. Donc moi, ce que je dis et ce que nous défendons, par exemple...
On arrive au terme d'émission.
On veut créer un magnifique statut des aidants. Parce qu'au niveau européen, ça 80% sera... des personnes dépendantes, des personnes handicapées au cours des maladies chroniques sont soignées par les aidants.
Ce sera votre mot de la fin, Yannick Jadot.
On veut créer un statut des aidants.
Merci beaucoup, c'était votre grand jury. C'est le jour aussi du SIDAction. RTL est partenaire, nos médias sont partenaires. Vous composez le 110 si vous le pouvez pour faire un don. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.
Protégez-vous toujours. RTL.